fait notre septième discipline sur 11, hein, la discipline de la bienséance. Donc, on est vraiment dans le pratico-pratique aujourd'hui. Hein. Vous allez voir, là, on apporte vraiment, on aborde nos comportements, nos paroles, nos pensées. Là, on est vraiment dans l'image qu'on dégage. Alors, la définition commune de la bienséance, c'est caractérisé par ce qui est approprié et adéquat. On l'a comme mis un petit peu en anglais au niveau chrétien pour plus mettre ça global. Hein. Se conduire de manière à ne pas couvrir de déshonneur l'Évangile et Christ. La bienséance élève nos paroles, notre apparence et nos attitudes. Cependant, la bienséance comporte bien plus que ces signes extérieurs mesurables. C'est une question de cœur. Donc, on va y revenir à la fin. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, Philippiens 1, 27. Donc, on va essayer de décortiquer ça là, en quelques morceaux. On en a parlé dans une discipline antérieure, hein, que il y a des gens dans la population, dans le monde, qui ont pas, qui suivent pas Jésus, qui vont pas à l'église, qui sont pas chrétiennes, mais qui ont quand même des bonnes valeurs, qui sont des bonnes personnes, qui agissent même mieux que nous sur certains points, qui sont très axés sur la communauté, qui ont un sens de la bonté puis du partage très développé. Fait que nous, là, on se dit, qui on serait si on était une femme de Dieu? Hein? On ne serait pas nécessairement tous des criminels, on n'aurait pas tous nécessairement des vies de divorcés, des femmes dans la débauche, l'immoralité. Hein? On ne serait pas nécessairement tous comme ça. Fait que c'est plus que l'attitude, puis plus que l'apparence, puis plus que nos propos qu'il faut aller chercher. On va couvrir ça aujourd'hui quand même, parce que c'est un petit peu ça aussi quand même la base de la bienséance. C'est notre façon de conduire, de se conduire, mais on va regarder quand même les motivations derrière tout ça. Fait que moi, là, dans mes amis, en tout cas, puis je suis sûre que dans les vôtres aussi, moi, j'ai des amis que quand je leur parle de ma foi, de mon évangile, eux, ils disent, ben moi, je suis bien comme ça, j'ai une bonne morale, je fais des dons à Centraide, je garde les amis autour de moi, leurs enfants, j'ai aidé une petite madame à traverser la rue. Tu sais, ils ont un sens développé des gens, fait qu'eux, ils sont dans, un peu dans cette illusion-là de bien paraître, puis ils vont pas nécessairement toujours au cœur du problème. Fait qu'il y a juste l'Évangile qui peut s'attaquer au cœur de ce problème-là. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder, on va décliner ce que je vous ai dit en trois, la bienséance dans l'apparence, dans les paroles et dans l'attitude. Puis on va faire quelques nuances là, que Mme Hughes a approfondi moins, juste pour aller un petit peu plus loin. Donc, dans la bienséance de l'apparence, le premier point qui est abordé, c'est célébrer la différence. Dans le livre, on voit la notion hein, qu'au travers du temps, la mode a beaucoup changé, puis a beaucoup teinté toute l'image de la femme dans la société. Que ce soit dans l'Église ou dans le monde, il y a eu des modes là, beaucoup plus sensuels, des modes beaucoup plus conservatrices, des modes où on a décidé là, de mettre un petit peu plus à l'égalité masculine, puis d'avoir des vêtements qui sont un peu moins... moins formés, plus droits, même qui devenaient masculins, hein, le port de la cravate, les pantalons qui ont rentré. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, on ne regarde pas la notion « on met-tu des robes, on met-tu des jeans, on met-tu des pantalons? » C'est pas ça, mais on voit qu'au travers du temps, la mode a eu une influence, rentre dans l'Église, bien entendu, on fait partie du monde, donc on fait partie de cette culture-là, donc nos vêtements, on les choisit certainement un peu en fonction de la mode qui est en vigueur. Mais assumer quand même le fait que des fois, dans certaines époques, le fait d'être une femme, c'est comme perdu ou avec une mauvaise connotation. Puis, dans toutes les modes, on voit toujours un côté plus extrême, hein, où il y a beaucoup de sensualité, sexualité, beaucoup d'exposition. Puis, on voit que la mode est très sournoise. Je pense au costume de bain maintenant qu'on a une pièce. On dit une pièce, c'est supposé être plus couvrant, mais maintenant, ils ont trouvé plein de façons hein, de mettre ça, que c'est des fois moins couvrant qu'un bikini. Fait que la mode a comme cette façon de nous amener, de nous influencer. Nous, on est toujours exposés. Hein, quand on magasine, sur Internet, dans les catalogues, on voit ça, on est outré de certains, on n'achèterait jamais certains d'autres. Mais il y a un regard qu'on pose là-dessus. Puis, on fait des décisions. Puis, on ne se dit pas toujours, hein, « What would Jesus do? » On ne se dit pas toujours, en achetant un linge, « Qu'est-ce que Jésus ferait avant d'acheter un linge? » On a comme un style approprié qu'on aime ou quelque chose. Puis, des fois, on a même quelque chose qui nous définit. Hein. Il y a du monde qui nous dit, « Ah, j'ai vu ça au magasin, mais ça se ferait bien à toi. Hein. » On devient avec certaines caricatures. L'important dans tout ça que Mme Hughes reflète, c'est qu'à travers notre cheminement, notre maturité spirituelle, des fois, il y a des changements dans notre façon de choisir notre linge ou de s'habiller qui vont devenir de façon... des fois, c'est subtil, on fait certains changements parce qu'on trouve qu'on s'est toujours habillé d'une telle façon, mais là, on trouve que nos motifs n'étaient pas là, ou c'est trop apparent, ou c'est trop serré. Fait que des fois, on a une réflexion qui va se faire au travers de ça. Puis ce qu'elle laisse entendre, mais c'est vraiment qu'à travers notre cheminement, il y a vraiment des gens qui vont avoir des changements importants au niveau vestimentaire. Je vous dirais que, tu sais, quand on regarde l'Église dans l'ensemble, là, c'est pas tout le monde qui est confronté à ce choix-là. Des fois, on est toujours bien habillé de bonne façon. Madame Hughes donne un exemple que j'ai trouvé un peu sévère, en tout cas à l'époque d'aujourd'hui. Elle dit, si on s'en va à un mariage, on s'attend toujours à ce qu'on soit habillé chic, hein, par respect pour la mariée. Puis si on s'habille pas chic, on déshonore la mariée par notre présence, par nos habits. Là, je trouvais qu'aujourd'hui, dans la culture qu'on est, hein, il y a des beaux jeans qui se prêtent. On a tout ça. Fait que des fois, c'est vraiment des perceptions. Il y a vraiment des gens que ça va influencer. Il y a des sortes de pierres d'achoppement qu'il peut y avoir au travers du linge. Fait que c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion qu'on a face à notre façon de se vêtir. C'est sûr, hein, qu'on aborde la notion de s'habiller de façon modeste. On voit dans 2 Timothée 2, 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je ne sais pas si vous avez une idée, là, je vais faire une question ouverte. Qu'est-ce qu'on pourrait remplacer aujourd'hui, ces termes-là, par aujourd'hui notre société, la mode d'aujourd'hui? Dans ce temps-là, ce qu'ils faisaient, c'était tresse, or, perle. Oui, Karine?
Bien, c'est le principe de passer énormément de temps devant le miroir pour être belle. Ça, c'est ce principe-là, peu importe.
C'est pareil, hein?
Oui, c'est ça. Tu sais, quand j'entends des collègues, ça leur prend une heure de se préparer, mais c'est ça.
C'est un bon exemple, le temps qu'on passe à se préparer. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui avaient des exemples aujourd'hui? Parce que je ne sais pas, je vois pas aujourd'hui, mettons, la tresse, c'est pas si synonyme là, de mauvais. Là. Peut-être la Reine des Neiges, là, quand on fait une petite tendance. Mais non.
Ça peut être les marques, là.
Les marques? Ah, les marques de vêtements? Ouais. Oui, ouais. C'est une bonne idée. Nous, on a quelqu'un qu'on connaît, elle, sa notion, c'est que ses prestations d'enfants servent à acheter le linge de ses enfants. Fait que, hein, les vêtements, là, c'est vraiment des grosses marques.
C'est
pas nécessairement tout le temps mauvais, hein, d'aller vers la marque, mais c'est la récurrence, le motif, le pourquoi. Ouais. Puis des fois, là, de sentir que, oh, le galou tabou, ou tu sais, un vêtement de Walmart, ça fait pas le travail, là, fait que c'est plus la vision.
Y
a-t-il
d'autres suggestions?
Oui. Quand on parle d'habits, ça me fait penser à mon fils quand il avait 3 ans. Et puis, on allait à un mariage. Et puis là, quand il a fini de se costumer, il met sa cravate. Et puis, il vient devant le miroir. Il s'arrache comme ça. Après, il dit, oh mon Dieu, que je suis beau.
Non, des fois, c'est ça. Mais c'est très subtil, hein, parce que. Puis peut-être que je dépasse, puis je vais passer des sections, puis j'empiète un peu, mais. Moi, je trouve que c'est la ligne est fine entre vouloir se trouver belle, être bien mise, se mettre en valeur versus en devenir hein, une petite idole là, ou qu'on se part.
L'équilibre,
c'est ça.
Le regard des autres aussi.
Oui, le regard des autres. Moi, j'allais dire le complexe qu'on a de soi. Bon. Mettons, là, moi, là, mon complexe depuis toujours, hein, c'est mon poids. Fait que là, quand je magasine, il y a toujours une notion de il faut que ça me fasse bien, il ne faut pas que ça. Tu sais, des fois, j'avais dit, est-ce que ça me grossit? Qu'est-ce que ça me donne? Tu sais, il y a cette notion-là de. Je pense pas que c'est mauvais. Tu sais, je ne suis pas obligée d'être en sac à patates, là. Tu sais, c'est pas ça le point. Mais on a toujours une façon, quelque chose qui vient influencer nos vêtements. Puis vraiment, là, en tout cas, pas moi, là, c'est, je me pose jamais la question si c'est éthiquement biblique. Je suis plus dans la notion, bon, si c'est trop sensuel, si c'est trop sexy, si c'est trop. Tu sais, je suis plus là, dans mon questionnement. Mais on se rend compte que nos complexes, le regard des autres, comment on est, vient vraiment influencer tout ça. Puis c'est vrai, la notion de ça nous prend du temps, hein, se maquiller. On a fait une fête surprise à une jeune de 18 ans il y a quelques années. On est toutes là à l'attendre, elle arrive. Ben, qu'est-ce fâchée, elle a quitté. Elle est allée chez elle, elle s'est changée, repeignée, remaquillée, puis elle est revenue. Hein? Elle dit, elle était fâchée contre sa mère, elle dit, tu peux pas m'avoir fait un surprise, puis les gens m'ont vu comme ça. Hein? Fait que nous, on était une heure à attendre avant qu'elle revienne. Elle, c'était spécial, on était toutes mal à l'aise, puis elle aussi, elle devait l'être. Mais tu sais, c'était vraiment important pour elle, puis elle pouvait pas croire qu'elle soulignait son 18 ans, arranger le même, il a fallu qu'elle aille se changer. Hein? Fait que des fois, c'est très fort, hein, le désir d'être. Donc, hein, on revient, hein, si on veut être vêtu de modestie et tout, là, ce qui est abordé dans la parole, c'est de se vêtir de force et de dignité. C'est la notion d'être un représentant de Dieu sur terre. C'est de jamais oublier ça. Mon meilleur exemple, c'est que je suis au cégep, je parle à une fille que je ne connais pas beaucoup, que je vais à l'église et tout, puis elle me dit « Oui, oui, quand j'étais jeune, là, j'avais un ami, elle sortait de chez ses parents, elle venait changer chez moi avant d'aller à l'école, parce qu'elle savait que ses parents n'allaient pas vouloir, puis elle prenait de mon linge. Fait que tous les matins, elle venait chez moi changer avant d'aller à l'école, puis en revenant, elle se rechangeait dans son linge, puis elle retournait chez ses parents. » Géant, c'est vraiment là, ben, c'est vraiment une importance qu'elle accordait à sa façon de se vêtir, une rébellion dans son cœur. Hein. Puis, on est des représentants de Dieu sur terre. Fait que, tu sais, comment on se vêtit, c'est le regard que les gens avec qui on parle pas, qui n'ont pas côté avec nous, ont une image. Fait que si on est en contact après avec ces gens-là, des fois, ça leur laissait une image ou une impression. Puis vraiment, aujourd'hui, là, je vous donne pas des lignes directrices de où on va et tout. Tu sais, c'est vraiment... Aujourd'hui, je pense qu'on est capable, avec le nombre de vêtements là, d'avoir un choix, puis de se re-questionner, puis voir. Puis, vous allez voir plus loin, là, on le voit plus dans l'exemple des femmes, des fois, avoir une opinion de quelqu'un d'autre, si on hésite sur un vêtement, c'est une bonne façon de faire. Si on a un conjoint ou des amis où on n'est pas certain, pour savoir si ça semble déplacé ou pas. Donc, c'est ça, on est représentant de Dieu, fait qu'il faut être à la hauteur de cette position-là, puis il faut être capable de se sentir digne là-dedans. Donc, hein, encore une fois, la parole nous met plusieurs versets. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, ça ressemble pas là, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est très drôle, hein, parce que la rencontre des femmes, là, dans une semaine, hein, vous allez vous faire maquiller, puis peigner, là, c'est un peu ça dans la thématique. Je ne sais pas si vous avez vu le clip des Karine, là, hein, on a Suzy qui est découragée de ses cheveux, puis qui ne sait pas quoi faire. Mais le but, c'est vraiment aussi d'avoir ce jumelage-là, puis que notre priorité, oui, on accorde une certaine importance, mais qu'on travaille sur notre beauté intérieure. Puis c'est ça qu'on va voir avec les exemples des femmes, plus tard. Donc, là, on était dans la bienséance de l'apparence. Là, on tombe dans la bienséance de la parole. Hein, on aurait pu faire une heure et plus là-dessus. La parole, c'est quelque chose qui est abordé très régulièrement dans la Bible. Je vous ai sorti quelques versets. On reste un petit peu avec les femmes là, dans le premier. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Celle qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Celui qu'on utilise souvent quand on parle de la langue dans Jacques. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Moi, je pense qu'on a tous des exemples qu'on peut compter ou que la langue a eu un grand impact. Je lisais cette semaine, il y a eu un pédiatre de l'hôpital Saint-Justine qui s'est suicidé. Puis le rapport du coroner est sorti hier ou avant-hier. Puis il faisait état que le suicide était relié au fait qu'il y a eu des problèmes. Il aurait fait peut-être des signalements inappropriés à la DPJ. Puis là, les rumeurs étaient tellement fortes que le pédiatre n'arrivait plus à vivre dans son quotidien sans être toujours pris dans toutes les rumeurs qui circulaient, puis ça l'avait envahi. Hein? Fait qu'un coup qu'on a, puis là, je ne dis pas que c'est juste ça le cas, là, je disais l'article dans le journal de Montréal, là, mais tu sais, un coup que des fois, il y a des rumeurs qui partent, il y a certaines choses qui partent, hein? Ça peut vraiment s'étendre rapidement puis enflammer complètement les circonstances. On a plusieurs sortes de problèmes avec la langue, la médisance, la flatterie, la critique, le dénigrement. Il y a des gens qui comptent que dans leur enfance, certaines paroles de leurs parents, ils ont tellement marqué qu'ils ne sont plus capables des fois de fonctionner ou qu'ils font beaucoup d'anxiété ou ont des problèmes très grands à l'âge adulte, hein, que par de la violence verbale ou par certains propos. C'est très, très fort comme impact ce qu'on peut avoir par nos paroles. Puis Jésus, hein, il nous en parle clairement, il nous met des avertissements que l'arbre est... dites que l'arbre est bon et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Hein, Jésus nous laisse entendre. On ne peut pas avoir une apparence toute belle, toute bonne, puis qu'après, quand on parle, c'est des choses méchantes, des propos, des critiques, des médisances, puis dire qu'on est bien, même si on a de l'air d'être une bonne personne, puis on fait des bonnes actions. Si nos paroles ne suivent pas ça, on montre les fruits qu'on a à l'intérieur aussi. Hein. Si on a un arbre qui est bien planté, bien arrosé, on est supposé avoir des bons fruits et l'inverse. Fait que des fois, on a une bonne apparence, des bonnes attitudes, mais les paroles qui sortent de notre bouche peuvent refléter aussi certains fruits qu'on a dans notre cœur. Alors, nos paroles révèlent sans cesse ce qui s'y trouve. Puis, il ne faut pas s'y méprendre. Il y a des gens qui ont été élevés dans
avec beaucoup de sacre. Puis, je vous dirais que en moment de colère, hein, ça peut ressortir, même si tu as un bon cœur, puis que tu es dans le Seigneur. Des fois, les gens, c'est colérique, puis là, sur le coup, ils sortent quelque chose, puis après, ils sont repentants. On reste des humains pécheurs, mais ça reste hein, qu'il y a certaines choses qu'on a à travailler et à cultiver. Puis, pour certaines personnes, c'est plus difficile, dépendant du corps qu'ils ont été, dépendant de leur personnalité, puis comment ils ont été.
Donc, la bienséance de l'attitude, on l'aborde très brièvement parce que c'est une bienséance qu'on voit vraiment à travers plein d'autres disciplines. C'est vraiment d'être capable de démontrer une bonté, une compassion, une générosité, un amour envers les autres dans notre attitude, dans notre comportement.
Là, j'ai pris deux femmes. La femme de Potiphar, puis Loïs et Eunice.
Là, ce n'est pas des femmes qui sont que dans la discipline de la bienséance, là. Ça commence à être bien difficile quand les disciplines sont plus larges. Fait que pour la femme de... Oh, c'est très sombre, hein? Oh, excusez, je mettrai ça plus tard la prochaine fois. Ça ça l'a pas bien, ouais. OK, je mettrai ça plus tard, je m'excuse.
Oh, c'est visible, là. C'est visible.
Mais là, on m'a dit que même sur iPad, des fois, ça ne lit pas bien. Fait que je vais modifier mon fond. C'est ça, on se rend compte que quand j'utilisais la femme de Potiphar en particulier, qu'il y avait bien d'autres choses qui ressortaient. Hein. Donc là, on s'attarde un petit peu plus au côté bienséance. Vous allez voir, il y a quand même des applications sur le reste. Fait que je ne veux pas négliger tout ce qu'elle pourrait apporter dans d'autres domaines. J'essayais juste de m'aligner un petit peu plus avec la bienséance. Alors, je vais lire le texte au complet, c'était 20 versets, puis on va mieux comprendre aussi tout le contexte. On vit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheteur des Ismaélites, qu'il avait fait descendre. Hein, on se souvient, Joseph s'est fait vendre par ses 12 frères qui étaient jaloux de lui. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'il parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi » et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât dans la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison.
Toute une femme, hein, que cette femme de Potiphar.
Une femme qui n'a encore pas de nom. Hein. Il y a plus d'une centaine de femmes dans la Bible qui n'ont pas de nom, qui sont nommées épouses de, filles de, femmes de. Hein, on pourrait faire plein de spéculations. Elle n'était pas assez importante. On voulait voir qu'elle n'était pas importante. Mais on n'est pas là. C'est la femme de Potiphar. Potiphar, c'est le chef des gardes du corps du pharaon. Un très grand poste, mais qui demande peu de responsabilités. Hein, ça dit qu'il faisait seulement que se préoccuper de sa nourriture. Hein, certains auteurs laissent entendre, peut-être qu'il était bien gras, bien dodonnant, couché sur son lit, à toujours s'empiffrer et manger. D'où, des fois, le paradoxe que sa femme cherchait ailleurs parce que physiquement, il ne la contentait pas. On ne le sait pas, ce n'est pas écrit dans les textes. Mais c'était dit de lui qu'il s'occupait juste de sa nourriture. Son poste n'était pas vraiment un poste qui lui demandait d'être bien responsable de quoi que ce soit. À cette époque-là, l'Égypte est très riche. Hein? C'est un territoire où, quand il y a les famines, les gens se retrouvent là. On le voit dans l'époque de Joseph, dans l'histoire par la suite, quand il y a une famine, les gens viennent en Égypte. On a le fleuve qui inonde chaque année les terrains, qui fertilise toute la vallée. Quand ça se retire, c'est un champ très propice à la culture. Hein? On dit même qu'à certaines époques, on peut avoir un pied dans le fleuve et un pied dans les champs, tellement c'était connecté. Donc, c'est un lieu de récolte abondante, c'est un lieu bien propice. Ils ont beaucoup de projets d'urbanisme. On le sait, l'Égypte, encore aujourd'hui, des grands tombeaux, des grandes sculptures. Ils ont vraiment misé un développement. Il y avait les esclaves pour le faire. Hein? Donc, ils ont pu faire certains beaux projets. Ils sont devenus experts dans la momification. On dit souvent les pyramides, tout ça, mais il faut vraiment noter qu'ils ont développé une expertise là-dedans. Donc, ils s'en enorgueillaient. Il y avait de nombreux projets à cet égard-là. Et il y avait vraiment des décors somptueux en bois, en ébène, en bois d'Éden, en cuivre et en bijoux impressionnants. Donc, c'est un milieu qui était très riche. Donc, quand on Google la femme de Potiphar, les images qui nous viennent, c'est des temples riches avec la femme là, bien vêtue, plein de bijoux, dressée, effectivement. Hein, elle est bien parée. Alors, dans l'histoire, on a deux personnages principaux. On a la femme de Potiphar, une femme qui s'ennuie, qui ne sait pas quoi faire. On se doute que si son mari n'a rien à faire, elle non plus, avec les nombreux serviteurs et tout ce qu'elle a, elle s'ennuie. Et on a Joseph, l'homme engagé d'une autre race. Hein? On est vraiment, il est hébreu versus égyptien, qui était esclave au point de départ, qui a tellement bien réussi qu'il a un poste de haut gradé. Donc, vraiment, hein, une source de convoitise pour la femme de Potiphar. Et il paraît qu'il était beau et grand. Hein? Fait que ce n'était pas pour déplaire. Donc, elle n'est pas du tout subtile. Hein? Dans le texte, on est là. Est-ce qu'il y avait des préambules? Je ne sais pas. Ben, dans le texte, il nous le dit. Elle lui demande tous les jours, couche avec moi. Hein? C'est vraiment insistant. On ne connaît pas la situation de Joseph. On ne connaît pas s'il y avait une hésitation ou pas, s'il était vraiment non, 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 ou à force de tous les jours, à un moment donné, c'est difficile. Dans le texte, quand on voit qu'elle va prendre son vêtement, il est assez proche pour qu'elle prenne son vêtement. Est-ce qu'il était tenté? Est-ce que, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, il disait toujours non, puis il était toujours en train de résister à ça. Donc, c'était une femme d'un homme puissant qui devait toujours sûrement être satisfaite dans ses désirs. On lui apportait ce qu'elle avait besoin. Donc, c'était vraiment un élément convoité, Joseph, où elle se faisait dire non constamment. Est-ce qu'elle était dirigée par ses mauvais désirs? Est-ce qu'elle était insatisfaite des avis conjugales? Ou c'était vraiment juste parce qu'elle se sentait seule? On ne sait pas. Mais elle représente bien ce que l'Éternel haït le plus. Hein? Il y a 6 choses que haït l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Hein, la femme de Potiphar, elle avait réuni tout un convoi avec sa situation. Elle était très pauvre spirituellement, elle n'avait pas Dieu comme chef, évidemment. Quand on met en parallèle les deux, hein, on voit vraiment que le caractère de Joseph est mis en lumière par l'obscurité de la femme de Potiphar et son hypocrisie. Par contre, dans Deutéronome, les lois qui avaient été mises quand il y avait de la douleur, c'était la mort. Donc, Joseph méritait la mort si M. Potiphar avait cru vraiment entièrement sa femme. Beaucoup d'auteurs laissent entendre que Potiphar n'a pas cru entièrement sa femme parce qu'il ne l'a pas fait mourir, il l'a envoyé en prison. Donc, il ne respectait pas vraiment la loi, mais peut-être parce qu'il ne le croyait pas.
Parce que les esclaves n'avaient aucun droit.
Là. C'est ça, et tu sais, même s'il était haut placé, c'était quand même un hébreu, il méritait la mort là-dedans, c'est ça, effectivement.
Quand ça dit qu'il est fâché, c'est pas contre Joseph.
C'est ça, j'allais dire, il est fâché, mais il fallait qu'il donne une sorte de justice de conséquence. Il y a des auteurs qui disent,
La femme a crié après avoir été abusée. Donc, les serviteurs aussi ne devaient pas être dupes, hein? A crié après qu'elle est partie, pas avant. Fait que, laisse entendre là, que vraiment la femme devait avoir une réputation, les serviteurs devaient jaser entre eux, puis le mari ne devait pas nécessairement croire tout ça. Mais, hein, que peut-il faire? Il ne peut pas juste renier sa femme. C'est plus facile de renier l'hébreu. Mais là, ça a tout un impact là, dans la vie de Joseph. Là. Il a déjà été vendu par ses frères. Là, il est haut placé. Là, il se fait mettre en prison. Vraiment, une vie, hein, toujours. Puis c'est toujours les autres qui ont des qui décident pour lui. Hein. Lui, il agit. Puis là, les gens sont fâchés. Puis il y a des conséquences. Donc, on voit là, que la femme de Potiphar a mal utilisé hein, un don précieux qu'on a, que même aujourd'hui, on se plaint souvent, le temps, qui nous manque le temps. Elle en avait, puis elle l'a utilisé à mauvais escient. Malgré son intelligence, puis elle était capable de manipuler, puis d'apporter certaines choses, elle a renoncé, puis elle ne laisse pas de bons souvenirs à personne. Elle nous laisse des leçons, par exemple, à retenir. Puis là, c'est là que je vous dis que mes leçons vont un petit peu plus larges que la bienséance, mais je les trouvais bien appropriées quand même. Nous ne devons pas nous relâcher. Ça, on parle plus de Joseph que de la femme de Potiphar face à la tentation. Hein? Quand la tentation vient à nos portes, hein, il faut savoir être capable de dire non. Dans Éphésiens, on voit « Car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Hein? Joseph, tous les jours, devait être confronté à la femme de Potiphar. Déjà, qui était supposé être un esclave, puis il avait un poste, il n'avait pas beaucoup de possibilités de postuler ailleurs ou d'aller ailleurs. Hein? Il devait être là, fait qu'il devait affronter ça, puis il n'a pas relâché. Là, on est plus dans la notion de sexualité, sensualité, quand il parle de « il est bon de s'entourer de soutien ». J'ai beaucoup aimé quand elle dit « ne jamais quitter la maison sans notre mari dans son cœur ou notre esprit ». Puis, je trouvais la notion, là, ça s'applique autant à Joseph qu'à la femme de Potiphar dans notre façon d'être, ou que des fois, bon, dans notre couple, dans notre certaine situation, c'est difficile, puis on rencontre des gens au travers, puis on n'est pas accompagné de cet amour-là qu'on devrait avoir pour notre conjoint, même si on est dans des moments difficiles. Fait qu'il parle d'être capable de garder notre mari à l'esprit ou qu'on va être moins tenté d'aller vers d'autres personnes ou d'avoir des discussions autres. Je vais vous donner un exemple. Quand je me suis mariée, moi, j'avais un bon ami, qui est toujours un ami pour moi, garçon. Puis, on se continuait à s'écrire. À un moment donné, je me suis rendu compte que des fois, j'y annonçais certaines choses ou des sentiments, oh, ça n'a pas bien été aujourd'hui, à lui avant Luigi, mais pas mal intentionné au début, juste parce qu'on a toujours eu une correspondance depuis notre enfance. Puis là, à un moment donné, on a décidé, j'en ai parlé à Luigi, puis on a comme décidé que j'allais le mettre en copie Luigi, pas pour me sentir que lui n'avait pas confiance ou moi j'ai pas confiance, mais juste pour me faire réaliser que hein, notre amitié maintenant, à moi puis ce garçon-là, était à travers mon mariage. Donc, quand il vient à la maison, c'est pas quand je suis seule, c'est quand Luigi est là. Puis c'est ça. Moi, je sens pas que c'est un problème de confiance envers Luigi, mais c'est de garder toujours à l'esprit que maintenant, je suis mariée puis mes relations, elles sont différentes.
Allons chercher nos maris avant et pas après. Là, c'est vraiment la notion que la femme de Potiphar aurait dû travailler sur sa relation de couple au lieu de travailler sur notre relation puis d'utiliser son mari après à des fins de vengeance. Hein? Quand nous trébuchons, la confession évite le camouflage. L'Éternel que nous aimons regarde nos cœurs. Au lieu d'essayer de cacher, confessons et repentons-nous. Hein? Fait que ça, le Seigneur, là, il voit le péché constamment dans notre cœur. Puis il n'y a pas de journée qui passe ou qu'on n'a pas à lui redemander pardon. J'avais une conversation avec mon fils cette semaine. Puis là, sa soeur s'est endormie sur le divan. Fait que là, je pouvais coucher plus tranquille que quand Italia crie derrière moi. Fait que là, on parlait ensemble. Puis j'ai dit, est-ce que tu m'aimes comme maman? Tu sais, je voulais comme être rassurée. Il dit oui. Il dit, toi, tu fais jamais de péché à part te chicaner avec papa. Hein? Ça m'a comme remis sur ma chicane avec lui. Mais je me disais, là, on a pris le temps. Je disais, non, maman, elle a vieilli. Mais j'ai dit, on a parlé de l'orgueil, tu sais, de l'égoïsme, la paresse. Il dit, ben là, tout le monde est paresseux, maman. Tu sais, il y avait comme une notion. Puis je trouvais pas ça nécessairement difficile de lui partager mes péchés. J'étais contente là, qu'il n'en voit pas tant que ça. mais tu sais, c'était d'être capable de lui partager. Puis je lui ai partagé une petite vidéo, là, ça n'a pas rapport avec la bienséance, mais
Il y a une vidéo qui circule sur Facebook présentement. C'est des enfants, on leur demande quel cadeau ils veulent pour Noël. Et là, les enfants disent un Xbox, des Lego. Puis là, les gens leur donnent le cadeau. Ils sont tout énervés, tu sais. Là, après ça, ils leur disent, qu'est-ce que votre maman aimerait savoir comme cadeau? Fait que là, il y en a qui disent des montres, une bague, du savon. Bon, fait que là, ils leur donnent le cadeau de la maman. Puis après, ils leur disent, tu as le droit de quitter avec un seul cadeau. Là, dans la vidéo, c'est bien cute, tous les enfants choisissent le cadeau de la maman. Puis leur dit, j'en aurai d'autres, des Legos plus tard, mais une maman, je veux lui montrer que je l'aime maintenant. Là, je ne sais pas s'ils n'ont pas mis dans la vidéo les enfants qui ont choisi leur propre cadeau. Ça, je ne sais pas. Mais je voulais expliquer à mon fils que lui, il fallait qu'il réfléchisse qu'est-ce qu'il aurait fait. T'sais. Il dit, j'aurais pas été capable de choisir. Enfin, on n'était pas rendu là. Là. Mais et, dans le sens que c'est juste qu'on voit que des fois, c'est sournois. T'sais, on a l'impression que c'est des petits péchés ou que c'est des choses qu'on fait. Mais moi, je réalise en tout cas que mon orgueil est très fort et que ça ne transparaît pas toujours plus. Mais dans mon cœur, je le sais. Dans mes pensées, je le sais. Dans certaines réactions que j'ai, ça paraît. Fait que vraiment, hein, d'être capable de se confesser puis d'éviter ce camouflage-là. Madame Prévost a donné l'exemple qu'on a une lampe qui brille parce qu'on est sauvé. Puis que des fois, on a des péchés puis ça vient atténuer la lumière de notre lampe. Mais des fois, on s'en rend pas compte ou on décide de passer par-dessus. Puis le camouflage devient encore plus grand parce que les péchés s'accumulent avant qu'on s'en rende compte. Puis notre lumière, elle est vraiment ternie. Puis des fois, on a l'impression qu'elle n'allume plus du tout, même si elle est en dessous. C'est important d'éplucher ça, puis d'enlever ces couches-là, qui des fois paraît pas trop, mais des fois, dans notre cœur, ça paraît. Fait qu'il faut sonder notre cœur, là, personnellement. Il est important de se souvenir que si l'on rencontre quelqu'un qui, comme la femme de Potiphar, nous a fait souffrir injustement, nous pouvons encore avoir confiance en Dieu, sachant qu'il est avec nous. Nous pouvons encore avoir espoir que Dieu utilise chacune de nos expériences pour nous transformer pour l'avenir. Hein, l'amertume, c'est un péché qui ronge notre cœur.
Il y a des injustices qui arrivent vraiment grandes dans nos vies, dans la vie des gens qui nous entourent, des accidents fatals qui viennent teinter, puis on a vraiment un sentiment très fort d'injustice, puis ça crée de l'amertume. Puis ça aussi, ça peut être vraiment quelque chose qui vient camoufler notre lumière, puis qui vient teinter là.
Puis c'est important d'essayer de pardonner et de faire confiance à Dieu. Puis là, je dis ça avec toute humilité, là, il y a des circonstances qui font que c'est très dur des fois d'être capable de reprier, de redire certaines qualités à Dieu quand il y a certaines épreuves qui viennent nous blesser puis nous transpercer. Mais Dieu va toujours être là.
Puis il faut vraiment être attaché à ce sentiment, pas ce sentiment-là, cette vérité-là que Dieu va toujours être là puis que Dieu va toujours... pourvoir à nos besoins, puis que si on n'a pas rien autour de nous qui réussit ou que ça ne va pas bien, il faut se raccrocher à l'espoir que Dieu y utilise toutes les choses qu'on veut dans notre vie, puis qu'on a confiance en lui.
Mais je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile quand l'épreuve est grande. Quand j'ai demandé à Luigi de m'inspirer sur certaines femmes de la discipline adolescente, il m'a parlé de Louis et Eunice, et je dois avouer que moi, jamais j'aurais pensé à ces femmes-là. En sens que je pense que je les avais même oubliés. Ce n'était pas des noms que je me souvenais là, de première femme. Là, quand je lis mes livres, il y a 100 autres femmes que j'aurais pensé avant. Mais en lisant les quelques versets qui parlent d'eux, on voit un contraste très grand avec la femme de Potiphar. Alors, on a trois passages qui soulignent leur présence. Acte 16, 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconque rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc, hein, la femme juive, c'est... C'est Loïs, sa femme, parce que Eunice, c'est la grand-mère. Mais là, j'ai un blanc.
Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce quelqu'un qui peut m'aider? La femme Loïs, c'est la mère, Eunice, c'est la grand-mère.
La mère, c'est Louis. On voit gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Et dans 2 Timothée 1, 5, toi demeure dans les choses que tu as apprises, on parle de son instruction auprès de sa mère et sa grand-mère, et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les cinq lettres qui qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, on voit vraiment que Louis et Eunice n'ont pas du tout un rôle dans la parole. Là. Ils ne parlent pas de leur vie, ils ne les décrivent pas, ils n'ont pas accompli quelque chose là, qui est nommé. Ce qui est nommé, c'est que Timothée a été prêt pour le ministère à cause de l'enseignement reçu de sa mère et de sa grand-mère. Donc, pourquoi j'ai décidé de les prendre aujourd'hui? C'est parce que c'était comme si c'était une conséquence de la bienséance de ces femmes-là envers Timothée. On voit un témoignage, hein, comme la femme de Potiphar ne laisse pas de résultats positifs pour l'avenir. On voit que Loïs et Eunice, eux, ont perpétué vraiment par leur enseignement, leur attention envers Timothée, un disciple qui a été très fructueux pour le ministère de l'Évangile. Hein? Puis Paul en mentionne. Paul, il était très tranchant. Hein? Paul, on dit souvent que c'est un colérique sanguin. Hein? Il aimait pas. Il y a eu des chicanes. Avec Jean-Marc, c'est Jean-Marc.
Bernabas.
En tout cas, il y a eu des chicanes, excusez, là, si je n'avais pas le terme.
Avec Pierre aussi.
Il y a eu des chicanes, il était étrangeant, tout un homme pour le ministère de l'Évangile, mais on sent quand même dans ses écrits qu'il avait un caractère, puis on sent vraiment, pour le nommer à trois reprises dans ses écrits, qu'il soulignait l'aspect que Timothée était qui il était à cause de l'enseignement qu'il avait reçu de ses mères, de sa mère et de sa grand-mère, les paroles qu'il avait. Donc, ils ont laissé une forte impression. Ils ont vu aussi que Timothée n'a pas seulement écouté les principes de sa mère, de sa grand-mère, il les a mis en application.
Hein, c'est sûr qu'on souligne que Timothée n'est pas sauvé parce que sa mère et sa grand-mère ont parlé de l'Évangile, mais bien parce qu'il a fait une profession de foi. On se dit même que ces femmes-là qui étaient retirées dans un contexte où c'est le papa était grec puis la maman était juive, on se questionne s'il y avait vraiment un enseignement complet. Est-ce qu'ils étaient au courant que le Messie était venu? C'est pas tout clair. Hein? Mais ce qu'on sait, c'est que Paul a achevé l'instruction de Timothée puis l'a converti à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un jeune homme qui avait une bonne réputation puis que son attitude de cœur et sa noblesse ont permis d'être très utile.
Donc, il disait que Timothée enseignait depuis son enfance dans le respect des saintes écritures serait un instrument de choix dans le service de Dieu. Puis après ça, on voit vraiment que ça ne remplace pas la conversion en soi. Alors, c'est ça. Là, je pense que j'ai déjà tout dit brièvement, mais Paul avait vraiment entretenu cette formation-là puis le ressouligne dans ses lettres pour dire que ces femmes-là avaient eu un impact très grand. C'est un très, très bel exemple de lignée maternelle dans la Bible qu'on a très, très peu. Hein? Souvent, c'est des descendances, des lignées masculines. On a peu de femmes qui sont abordées. Mais vraiment, là, on a une belle lignée où on voit l'impact direct qu'il y a eu. Puis moi, je vois que aussi Dieu veut souligner ça. Hein? Parce que, tu sais, on sait que les textes saints, c'est choisi et tout. Puis ces trois versets-là ont été gardés pour pouvoir souligner tout l'impact que ces femmes-là avaient eu dans la vie de Timothée. Puis ça a été une sorte de chaîne de foi puis de prière qui ont été augmentées.
Moi, je fais un parallèle avec Suzanne Wesley qu'on a parlé au début, qui priait pour ses deux fils qui ont été des grands évangélistes, hein, Charles puis John Wesley.
Puis on voit là, que ces femmes de prière-là, de conviction-là, ont des impacts très grands sur leurs enfants. Donc là, j'ai fait un petit résumé de matière à réflexion, des questions pour vous laisser partir avec une réflexion très pratico-pratique. Je m'excuse, j'ai... la gorge qui bloque un peu.
Donc, pour résumer tout ça, hein, ce qu'on parle, c'est d'être capable de s'examiner quand on parle de l'apparence, des paroles, de l'attitude dans notre comportement, dans les bons fruits qu'on veut ressortir. C'est d'être capable, premièrement, d'être reconnaissant. Hein, puis de louer Dieu pour les changements. Amène le terme chirurgie, je trouve ça intéressant. Les chirurgies que le Saint-Esprit a fait dans notre cœur. Fait que d'avoir cette reconnaissance-là, ça nous aide à être moins découragés. Parce que quand on fait nos listes de choses à transformer, elle peut être des fois très longue. Ça peut être très décourageant. Fait que d'être capable de voir tout le cheminement que le Saint-Esprit, notre conversion a fait dans notre vie, c'est très encourageant.
Il faut se questionner sur nos vêtements. On en a parlé au début, si on a un souci. Si on s'en fout complètement, hein, peut-être qu'il faut aussi se questionner sur être capable d'avoir juste une lignée de pensée pour que toutes les sphères de notre vie, hein, c'est toujours ça le livre des disciplines, c'est que toutes les pièces de notre corps soient vraiment réfléchies puis en lien avec ce qu'on veut démontrer, ce qu'on veut transparaître. Quelle pièce de vêtement spirituel avez-vous le plus besoin d'ajouter à votre garde-robe? Hein, ça, il reflète beaucoup par rapport à l'attitude. La compassion, la gentillesse, l'humilité, la douceur, la patience.
On se rend compte des fois qu'on a une certaine attitude en public qui est très bonne, mais en privé qui est très difficile. Fait qu'on peut avoir une réputation de personne qui est très douce, mais rendu dans notre maison, on devient très impatient puis plus abrupt. Fait que c'est important que toutes les sphères de notre vie aillent
ces sentiments-là, parce que les gens autour de nous sont capables de venir nous chercher plus. Fait que des fois, on pense qu'on a une certaine qualité, mais elle reste à développer des fois quand on est confronté à des moments plus critiques. L'art de maîtriser ce que nous disons représente un défi de toute nos vies, hein, à nous amener à nous questionner,
de repenser à certaines discussions qu'on a eues dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Est-ce qu'on a fait preuve de calomnie, de médisance, de flatterie? Je ne vous l'ai pas lu tantôt, mais j'ai aimé la différence entre la flatterie et la médisance. Hein. La médisance, c'est de dire quelque chose dans le dos de quelqu'un qu'on n'oserait pas lui dire en face. Puis la flatterie, c'est de dire quelque chose dans la face de quelqu'un qu'on n'oserait pas lui dire dans le dos, parce qu'on ne le croit pas vraiment. Hein? Fait que c'est de sonder nos paroles, de sonder ce qu'est-ce qu'on dit, puis d'être capable de se dire, peut-être que c'est pas le temps que je parle, peut-être qu'il y a d'autres choses à dire. Les critiques constructives sont pas toujours constructives. C'est pas toujours aussi, des fois, il y a un temps pour le dire. Fait que c'est vraiment d'être plus attentif à ce qu'on parle.
Dans notre temps avec Dieu, d'être capable d'être humble, puis d'être capable de voir qu'est-ce qui bloque notre lumière, puis qu'est-ce qu'on a à travailler, puis d'avoir une attitude de soumission respectueuse. Quand on a parlé de la soumission, on a fait de la discipline,
mais là, depuis que je fais les autres disciplines, donc ça fait 4 disciplines que je fais depuis, à chaque fois, il y a des encadrés sur la soumission dans les autres disciplines. Alors, c'est vraiment comme un fil conducteur que Mme News voulait mettre pour dire que si on est capable d'avoir cette humilité-là, bien, on peut vraiment être transformé au travers de toutes les disciplines qui est englobé.
Et je voulais le remercier parce que si on a vraiment une crainte de Dieu, qu'on veut vraiment être à son image puis être transformé, bien c'est cette attitude de soumission-là qu'il faut apprendre à développer. Bien, c'est une matière à réflexion pour être capable d'apporter ça chez vous puis voir, parce qu'il faut dépasser, là, je pense, le stade où juste regarder notre garde-robe, il faut aller plus loin que ça.
Fait que des fois, notre apparence inclut aussi nos propos, inclut aussi notre façon d'être. Puis il ne faut jamais oublier qu'on est des représentants de Dieu. Fait qu'entre nous, ça peut bien aller, mais qu'est-ce qu'on ramène à nos enfants? Quelle est la perception de nos enfants, de nos collègues de travail, de nos amis? Est-ce qu'il y a des gens qui nous voient d'une certaine façon, mais s'ils nous verraient à l'église, ils trouvent qu'on est très différents? Hein? Fait que c'est des choses à sonder, puis être capable de voir là, qu'est-ce qui est un obstacle pour nous à notre maturité spirituelle. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des commentaires ou des histoires ou des questions? C'est bon? Fait qu'on va conclure par un mot de prière. Est-ce que quelqu'un veut faire le mot de prière de la fin? Alors, je vais prier. Tendre Père, on veut vraiment te remercier d'être un Dieu si patient envers nous. Tu nous vois jour après jour avec nos travers, nos défis, nos péchés, notre orgueil. Seigneur, mets-nous en lumière les choses qu'on a à travailler. Équipe-nous pour qu'on soit capable de pouvoir être transformés par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, rends-nous attentifs à ne pas faire du surplace, à être assis dans notre confort, mais à vraiment chercher à grandir au travers de toi. Et Seigneur, surtout à avoir un impact dans ta communauté pour être capable d'amener des âmes à toi. Et on te prie vraiment que tu puisses nous donner cette patience-là, cette foi-là pour être capable de travailler pour ton royaume jour après jour. Je te prie pour ceux qui sont épuisés, qui sont bouleversés par des épreuves, qui voient comme une grosse montagne juste de vivre leur quotidien. Je te prie que tu puisses leur apporter de la paix, de la joie et du réconfort, Seigneur, et les aider à passer au travers. Je te prie que tu puisses nous aider dans notre rôle de femme, à savoir où est notre place, quelle est notre vraie identité et qu'est-ce que tu veux pour nous, pour notre vie terrestre, avant qu'on aille te rejoindre dans notre vie céleste. Merci pour ton Fils qui a accompli tant de choses pour nous à la croix et merci pour cette journée qu'on va avoir entre nous. En ton nom précieux qu'on te prie. Amen.
Amen.
Merci.